Jean Tirole, vous êtes directeur scientifique de l'Institut d'économie industrielle à Toulouse. Vous êtes aussi président de l'École d'économie de Toulouse. Vous venez de publier un rapport qui s'intitule Politique climatique, une nouvelle architecture internationale, un rapport qui vous a été commandé par le Conseil d'analyse économique. Vous allez nous expliquer bien sûr quels en sont les enseignements. Mais tout d'abord, je voudrais vous demander, en pleine crise financière ou en pleine fin de crise financière peut-être, qu'est-ce qui pousse un économiste tel que vous à tourner son regard vers la question du climat?
Je crois que les deux choses sont un peu indépendantes, c'est-à-dire que la crise financière existe et j'ai écrit un rapport justement pour essayer de comprendre comment on pourrait améliorer les régulations financières, ce qui est tout à fait important. Le réchauffement climatique est aussi une question d'actualité. On a tendance à penser que c'est du long terme, mais c'est d'actualité. Il faut prendre des actions précoces dès maintenant. Et dans 2 mois, donc, il y a des négociations à Copenhague qui vont décider de ce qui va se passer d'ici 2020. Et donc, il va s'agir d'agir sur le climat, sur la politique climatique, qui est essentiellement un problème économique. C'est un problème économique puisqu'il faut donner les bonnes incitations aux ménages, aux entreprises, aux administrations pour utiliser des technologies plus vertes. Donc, il s'agit de mettre en place un système qui soit efficace. Et je suis assez pessimiste sur ce qui va se passer à Copenhague. C'est-à-dire qu'à Copenhague, on risque d'avoir un accord à minima où finalement on s'accorde pour refaire ce qu'on a fait à Kyoto, c'est-à-dire très peu de contraintes.
On va revenir sur ce point. Est-ce que vous pourriez nous aider à comprendre quels sont les deux ou trois enseignements principaux de votre rapport?
Alors, tout d'abord, il faut d'abord un signal prix, c'est-à-dire qu'il faut que les gens perçoivent le coût de leurs activités sur le climat. Et donc, il faut ce qu'on appelle un marché de droits d'émission négociables qui soit au niveau mondial, où chaque acteur, que ce soit donc des ménages, des entreprises ou des pays, soit amené à acheter des permis, alors de façon directe ou indirecte. Pour les ménages, ce sera toujours de façon indirecte, et paie finalement le coût de leurs émissions de carbone.
Vous nous expliquez dans votre rapport comment, d'une part, définir un cadre juridique pour la future architecture, le futur traité anti-réchauffement qui normalement doit être défini à Copenhague, et vous essayez de nous donner une vision également de ce qui pourrait inciter certains pays à se rallier à cet accord.
Alors, je voudrais déjà insister sur la nécessité d'un prix unique du carbone. C'est-à-dire que les études ont montré que quand on taxait un polluant, on diminuait, on taxait avec un prix unique, ou alors on créait un système de droits d'émission négociable donnant naissance à un prix unique,
Oui.
on diminuait énormément le coût de dépollution, par un facteur de 2, parfois 3. Et ça, c'est tout à fait crucial pour 2 raisons. Tout d'abord, le pouvoir d'achat des ménages est nettement diminué. Si on a une politique qui est inefficace, et on a bien vu lors du débat sur la taxe carbone en France que c'est tout à fait important, évidemment, de considérer le pouvoir d'achat des ménages, mais aussi d'un point de vue crédibilité de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire que si on a une lutte contre le réchauffement climatique qui n'est pas efficace, elle sera mise en cause, elle sera renégociée, et finalement, on va se retrouver avec des pollutions qui sont bien au-delà des objectifs du GIEC. Et actuellement, on a des prix du carbone pour les différents acteurs qui vont de 0 euros par tonne à 1 400 euros par tonne selon la façon dont on dépollue. Et donc, c'est tout à fait important d'avoir un prix. On estime actuellement que le prix devrait être autour de 45 euros pour monter à 100 euros la tonne en 2030 en cas d'un accord international. Alors, je vous rappelle que le prix en ce moment est de 15 euros la tonne sur le marché des
On
droits
est loin
d'émission
de 100 euros.
négociables, 17 euros pour la taxe carbone. On en est encore très loin, mais il faut aussi comprendre qu'il n'y a pas d'accord international.
Alors, il y a l'accord du protocole de Kyoto, bien sûr, mais qui va arriver à expiration dans très peu de temps, fin 2012. Dans ce traité, le traité de Kyoto, le marché a un rôle assez essentiel. Votre vision, c'est qu'il devra avoir un rôle essentiel aussi dans le futur traité qui doit être défini à Copenhague. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas dangereux? Est-ce qu'il ne faut pas tirer les enseignements de la crise financière que nous venons de connaître?
Alors, sur le marché, bien sûr, il faut que ça soit échangé sur des marchés organisés, etc. J'ai écrit un rapport à ce sujet. Il faut faire attention, évidemment, qu'il n'y ait pas de défauts dans ces marchés. Mais on sait faire ça d'une certaine manière. Je dirais que le marché est important pour deux raisons. D'abord, ça donne naissance à un prix unique du carbone. Encore une fois, par exemple, quand on installe un panneau photovoltaïque et que ça coûte 1 000 euros la tonne ou 700 euros la tonne, et que par ailleurs, il y a des pollutions à 0 ou 10 euros la tonne ou 20 euros la tonne qu'on ne fait pas, on perd énormément, on émet beaucoup trop de carbone, ce n'est pas du tout écologique. Donc il faut faire en sorte que ce prix soit uniforme pour qu'on réduise le coût global de dépollution. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces marchés aussi permettent une certaine forme de compensation, puisque un des gros problèmes qu'on a vu à Kyoto, mais encore plus à Copenhague, c'est comment on peut faire en sorte que les États-Unis, la Russie, les pays émergents, etc., acceptent des objectifs ambitieux de réduction de la pollution. Et il faudra compenser. Alors, pour compenser, il y a deux façons de procéder. La première façon, c'est de faire des transferts financiers. Et ça, je n'y crois pas trop, parce que le jour où vous aurez des transferts financiers importants des États-Unis vers l'Inde, le sénateur de l'Alabama va dire non, on ne va pas, on va aller voir ses électeurs et va dire on ne peut pas faire ça. Et on voit très bien l'égoïsme des pays, l'égoïsme des citoyens qui font qu'il y a très peu d'aide au développement, l'aide pour la lutte contre le sida, ça, les promesses ne sont pas tenues, etc. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est distribuer des permis, comme on l'a fait dans d'autres exemples, c'est-à-dire on l'a fait pour le SO2 aux États-Unis. Il y avait des transferts massifs entre le Midwest qui polluait énormément et puis les autres États qui polluaient beaucoup moins. Et ça s'est passé, ces transferts sont passés. Si ça avait des transferts budgétaires, je ne pense pas qu'ils seraient passés.
Mais justement, est-ce que le rôle, enfin je veux dire, la question des financements peut être facilement résolue? C'est un des sujets sur lesquels les négociations butent un petit peu en ce moment dans la perspective de Copenhague. Comment vous voyez cette question?
Oui, alors c'est justement, je crois qu'on ne parle pas assez de la compensation parce qu'on a à l'esprit une compensation en termes de transfert direct d'argent qui
Au pays du
aux
Sud.
pays du Sud,
Ouais.
et dont les,
On
dont
pose
les.
mal la question, vous pensez?
Je pense qu'on pose mal la question, mais je crois que le cas de la taxe carbone en France est très clair. C'est-à-dire, si vous demandez aux gens s'ils sont écologistes, ils vous répondent tous oui, bien sûr. Mais quand on parle de contribution à 17 euros la tonne, il y a 65% des Français qui sont contre, alors que très clairement, on devrait maintenant avoir 45 euros dès 2009. Donc, les opinions publiques ne sont pas prêtes à des transferts très, très forts, hein, des transferts financiers très forts. Donc, je pense que, et d'autre part, évidemment, les pays émergents ne vont pas vouloir freiner leur croissance s'ils n'ont pas des transferts en échange. Donc, je pense qu'une solution, c'est une allocation généreuse des quotas, des permis d'émission négociables
Oui.
vers ces pays émergents.
Est-ce que il vous semble aujourd'hui que des pays comme la Chine, comme l'Inde, pourraient accepter cette piste-là?
Alors, je crois qu'il faut recentrer le débat. C'est-à-dire qu'on est parti sur des pistes extrêmement complexes. La négociation est actuellement en panne. Et une des raisons pour lesquelles elle est en panne, c'est qu'on est en train de discuter de 150 choses, on est en train de mettre des rustines à droite à gauche, et le résultat final, c'est qu'on ne va pas prendre de mesures fortes en faveur de l'environnement. C'est mon sentiment personnel. Je pense qu'il y a un consensus d'un point de vue économique sur qu'est-ce qu'il faut faire, et il faudrait adopter ce consensus. Il est relativement simple, simplement un marché mondial des droits d'émission négociables. Et après, on discute du problème délicat qui est le problème de la compensation. C'est-à-dire de l'allocation des droits d'émission négociables entre pays.
Au bout du compte, quelles sont les chances de succès que vous percevez à la fin de l'année à Copenhague?
Alors tout dépend ce que vous appelez succès. C'est-à-dire qu'il y aura une photo de groupe. Je crois que ça sera important, ça sera vu comme quelque chose d'important. Mais si c'est pour renouveler Kyoto, ça sera clairement un échec. C'est-à-dire que si on dit on se revoit en 2020 et entre-temps les États n'auront pas fait grand-chose, ils auront fait des actions quand même, mais bon, ils n'auront pas fait grand-chose dans l'ensemble. Ils auront compris que garder un parc polluant, ça les aidera dans les négociations de 2020 parce qu'ils auront plus de compensation en 2020 s'ils ont gardé un parc polluant. Ça, c'est un échec pour moi. Ceci dit, on est à 2 mois de Copenhague. Donc, qu'est-ce qu'on fait à 2 mois de Copenhague? C'est clair qu'on ne va pas avoir l'accord idéal que l'on souhaiterait. Donc, à mon avis, un bon accord pour Copenhague, ce serait une feuille de route. Une feuille de route où on définit quelques actions précoces d'ici, disons, 2015. Et en plus, on se met d'accord sur un système. Un système qui comprend des droits d'émission négociables sur le principe. Tous les économistes sont d'accord sur ce sujet. C'est ce qu'il faut faire. Tout le monde est d'accord là-dessus. Une compensation par distribution de ces droits d'émission négociables entre les pays. Une formule de subsidiarité qui permet à ces pays finalement de décider un peu dans quel domaine ils vont faire des efforts. Une gouvernance internationale. Des mesures satellitaires de mesures, parce que ça c'est quand même la mise en place de satellites qui permettent de mesurer au moins au niveau des États, des pays, la pollution, et ça c'est tout à fait crucial. On ne peut pas avoir d'accord international si on ne mesure pas la pollution, donc c'est pas possible.
Depuis l'espace.
Depuis l'espace en particulier. Et si c'est pour mesurer au niveau des pays, ça ne devrait pas être trop cher. Au niveau des sources, c'est plus compliqué, mais au niveau des pays, ça devrait être raisonnable. Et puis, après, on continue à négocier. Et là, on a recadré la négociation. La négociation restera difficile, mais elle sera centrée sur une seule chose, finalement, qui est la compensation sous forme de distribution. Mais sur la trajectoire, c'est clair qu'il faut suivre les objectifs du GIEC. Et essayer de...
Moins 25, moins 40 voilà. % d'émissions d'ici 2020.
Et puis, effectivement, je crois que les déclarations des politiques et des États sur 2050 sont à peu près raisonnables, mais évidemment, elles n'engagent à rien. C'est ça un peu le problème. C'est-à-dire que les États sont prêts à déclarer n'importe quoi pour 2050. Et en particulier, ce qui est bien, c'est de déclarer ce que le GIEC recommande. Et je suis entièrement pour. Mais ce n'est pas ça qui va nous amener sur une trajectoire qui est conforme aux objectifs de 450 ppm, etc. Donc, on n'y est pas, au bout du compte, on n'y est pas. Donc, je suis à la fois pessimiste sur ce qui va se passer à Copenhague, mais je suis un optimiste dans la mesure où je ne veux pas me résoudre à ce qui va se passer. Je crois qu'il faut faire beaucoup plus, beaucoup mieux. Et justement, le rapport se proposait quelques pistes à ce sujet.
Merci, Jean Tirole.
Je vous remercie.